Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Découverte macabre jeudi et hier vendredi en Thomas, secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Des ossements humains d'une cinquantaine de personnes ont été découverts par des cultivateurs. Les victimes seraient des otages des ADF tués entre 2021 et 2022. L'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchatchi a été inauguré ce samedi. C'est pour assurer des soins médicaux de qualité aux militaires. Le général Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, a au nom de tous remercié le chef de l'État, commandant suprême de l'armée et de la police, pour avoir concrétisé sa promesse faite en 2019. Notre invité dans ce journal s'appelle Boni Ofango. Il est le chef du centre d'exploitation de la Sakima Kailo au Maniema. Bonsoir à tous. Des ossements humains d'une cinquantaine de personnes ont été découverts jeudi et hier vendredi en Toma, dans le groupement de Malambo, secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Edgar Mateso, premier vice-président de la Société civile du Nord Kivu, affirme que cette découverte macabre a été faite par des cultivateurs. Les victimes seraient des otages des ADF exécutés entre 2021 et 2022. Edgar Mateso invite l'armée congolaise et ses partenaires de l'UPDF à intensifier les opérations militaires dans la zone pour en finir complètement avec le phénomène ADF. Il a été joint par Sadiki Aboubakar.
Sur quelques ossements, on a découvert des tenues militaires et quelques indices des militaires, ce qui fait penser que l'ennemi a d'abord rassemblé les otages avant de les exécuter sommairement. Et comme on peut déjà les constater, l'ennemi circule encore dans la zone. Pourtant, l'on pense que il est possible qu'on retrouve encore d'autres ossements dans la zone, mais malheureusement, à quelques 3 kilomètres de ces lieux, il y a encore la présence de l'ADF qui circule dans cette région, et surtout vers Kanana, Mangomba et des entités qui sont à la lisière du parc national de Virunga au nord de Makisabo dans le territoire de Beni en secteur Rwenzori. Voilà pourquoi nous continuons à demander avec insistance aux autorités militaires d'intensifier les opérations de traque de l'ADF jusqu'à libérer cette zone.
Le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 confirme cette information. Le capitaine Anthony Mwalushai indique que cette zone est un ancien campement des ADF commandé par Feza Mulalo qui a été tué lors des opérations conjointes FRDC-UPDF le 28 février dernier. Et puis nous apprenons aussi que toujours hier vendredi, au moins 21 personnes ont été tuées à la machette lors d'une incursion attribuée aux rebelles des ADF dans la localité de Misenge, groupement de Batangimbao dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Un véhicule, des motos et des vélos ont également été incendiés par ces rebelles, indique Mwami Augustin Kapupa, chef du groupement de Batangimbao. Ce dernier précise que 9 corps sont déjà découverts depuis ce samedi après-midi par les militaires FRDC qui ratissent la zone. Et le chauffeur du véhicule incendié s'en est sorti avec des blessures. Il a été conduit dans un centre médical du coin. Cette autorité coutumière affirme aussi que la plupart des victimes ont été exécutées dans leur champ. Il parle d'un bilan qui pourrait s'alourdir après la fouille. Le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai, confirme l'information et parle d'une embuscade tendue par les ADF, sans plus de détails, notamment sur le bilan. En Ituri, environ 440 personnes, dont 72 miliciens, ont été tuées au premier trimestre de cette année pendant les atrocités des groupes armés dans le territoire de Djougou. Plus de 120 autres civils ont été enlevés et environ 700 maisons incendiées au cours des différentes incursions des groupes armés. Ces statistiques ont été publiées hier vendredi par les services de sécurité. Isaac Remoyope.
Les exactions des groupes armés, dont essentiellement la milice Codeco, atteint le pic au cours de ces premiers trimestres de l'année 2023. Selon les rapports des services de sécurité publiés vendredi, plus de 160 cas d'incursion des milices ont été enregistrés dans les différentes localités. Le bilan est de 333 civils tués et 125 autres pris en otage et des dizaines de disparus. 72 milices ont été également neutralisés et plus de 60 blessés pendant les combats contre les FRDC et d'autres forces négatives dans la région, précisent les rapports. Du côté de l'armée, armée, il y a 42 morts, dont deux colonels et des armes qui ont été récupérées par la milice Codeco. On déplore également des dégâts matériels, dont l'incendie de 700 maisons, avec comme conséquence les déplacements des milliers d'habitants, ainsi que les pillages des biens de la population. Ces exactions des groupes armés se sont multipliées après la signature de l'accord de cessation unilatérale des hostilités par les groupes armés de l'Ituri et de l'accord de paix de Nairobi. Des voix s'élèvent pour que les miliciens réfractaires au processus de paix soient traqués par les FARDC pour restaurer l'autorité de l'État. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Justice à présent. Les deux éléments des FARDC accusés de meurtre des militants UNAFEC ont comparu pour la première fois hier vendredi devant le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi. Assistés de leur défense, ils ont reconnu avoir été envoyés par leur chef pour rétablir l'ordre troublé par les jeunes de ce parti politique, mais ils ont rejeté les faits mis à leur charge, à savoir le meurtre. Jean Gandou.
Au cours de cette audience, le ministère public est revenu sur les événements du 23 mars dernier, au cours desquels plusieurs jeunes de l'UNAFEC ont trouvé la mort. Pour lui, en ce jour-là, au quartier Bongonga, à la hauteur du pont Moïse jeté sur la rivière Naviundu, ces militaires ont tiré sur les jeunes de l'UNAFEC qui étaient en train de ravir les motos des passants. Ils détenaient des machettes et des pierres. Lors de ces incidents, 6 morts bien identifiés ont été enregistrés. Une réquisition à médecin a déjà été initiée pour savoir de quoi sont mortes ces 6 personnes. Pour leur part, les prévenus ont reconnu avoir été dépêchés par leur commandant pour établir l'ordre troublé par les jeunes de l'UNAFEC qui ravissaient les motos des mains de leurs détenteurs. Arrivés sur place, ils ont été pris à partie par ces jeunes qui ont même voulu leur ravir les armes. C'est en se disputant l'une des armes qu'un militaire a reconnu avoir tiré une fois par terre et 4 fois en l'air sur recommandation de son commandant. Les deux ne reconnaissent pas avoir tué qui que ce soit. Notons que les avocats des parties civiles ont indiqué qu'il y a eu plus de 6 morts. Ils ont promis d'amener les preuves lors de la prochaine audience prévue pour mardi prochain. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Inauguration ce samedi 8 avril de l'hôpital militaire de référence de 140 lits au camp colonel Tchatchi de la garde républicaine à Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a concrétisé une promesse faite aux militaires en 2019. Avec cet hôpital, la garde républicaine bénéficiera des soins de santé de qualité après une longue période de mauvaises conditions de vie, selon le commandant de cette unité d'élite de l'armée chargée de la protection du chef de l'État. Un condensé de la cérémonie avec vous, Lesh Walassa.
Le général Ephrem Kabi a remercié le président de la République, commandant suprême de l'armée et de la police, pour la volonté d'améliorer les conditions de vie des militaires. Il a peint un tableau sombre des anciennes conditions de vie des militaires. Le général Ephrem Kabi, commandant de la GR.
Les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés, à la promiscuité sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive.
Pour le bureau central de coordination, cet hôpital moderne nécessite une maintenance permanente. Son directeur a présenté les 4 services qui seront organisés. Jean-Mabi Moulumba, directeur du BCECO.
L'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ce jour est de niveau tertiaire, disposant de 140 lits répartis sur 4 services, dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a indiqué que les travaux de cet hôpital ont pris 3 ans. Sa construction s'inscrit dans le cadre du programme de couverture santé universelle pour les soins de qualité et accessibles à toute la population congolaise.
Pour une poussée en faveur du développement, en plus du projet 145 territoires, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour viabiliser la Caisse nationale de péréquation. C'est l'un des 5 points qui ont fait l'objet de la communication du chef de l'État lors de la 93e réunion du Conseil des ministres tenue hier vendredi à Kinshasa. Sachez que cette institution constitutionnelle, la Caisse nationale de péréquation, est chargée d'assurer la solidarité nationale en luttant contre les disparités en matière de développement entre les entités territoriales. Alain Erung nous fait un condensé des autres points évoqués au cours de ce Conseil des ministres.
Après l'instauration de la journée fériée du 6 avril, en reconnaissance au combat du prophète Simon Kimbangu et l'éveil de la conscience africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a chargé le gouvernement de passer à la phase de réalisation du projet de construction de la route Nkamba, s'assurer de la diligence auprès des ministres concernés afin que ce projet de construction de la route de la Passion, reliant la nationale numéro 1 à la cité de Nkamba, passe à la phase de réalisation dès le mois de mai. Toujours concernant la journée fériée dédiée au prophète Simon Kimbangu, le Premier ministre a rappelé au ministre de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement primaire et secondaire la nécessité d'actualiser dans le programme de l'éducation nationale les thématiques relatives à toutes ces figures de notre histoire commune. Et à la ministre de la Culture, Samalou Kondé, lui a rappelé l'urgence de poursuivre le travail de valorisation des sites historiques et l'érection des édifices et mémoriaux. Le vice-premier ministre chargé de la Défense a quant à lui informé le Conseil d'avoir sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de la Défense des pays membres de l'EAC à Goma. Objectif, statuer sur l'évolution de la situation sur terrain, clarifier certains malentendus et critiques dans le but de redorer l'image de la force régionale et repréciser son mandat.
La Commission électorale nationale indépendante au CENI exprime sa déception et ses regrets face aux sorties médiatiques de la plateforme politique Lamuka, lesquelles, selon elle, visent à discréditer le processus électoral en cours. Cette réaction est contenue dans une mise au point rendue publique hier vendredi à la suite de la publication par deux structures internes de Lamuka des observations sur le déroulement des opérations d'enrôlement des électeurs. D'autres détails avec vous, Pierrot et Lamengi.
D'entrée des jeux, dans cette mise au point, la CENI fait remarquer que sur la dernière liste transmise à la CENI par le ministère de l'Intérieur, Lamuka n'est nullement repris comme un regroupement politique. Par conséquent, la commission des suivis, des surveillances, des opérations électorales et des luttes contre la fraude électorale, ainsi que la coordination des opérations électorales des structures de Lamuka qui ont publié ces observations, n'ont aucunement existence légale et ne peuvent donc prétendre faire l'observation du procès électoral en cours. Elle indique par ailleurs que ces deux structures n'ont jamais sollicité une accréditation auprès de la CENI. La CENI indique que la demande d'accréditation datée du 22 décembre 2022, dont mention faite par l'une de ces structures, a été introduite à titre particulier par le parti politique Nouvel Élan. En conséquence, selon cette mise au point, la CENI se demande de la véracité et de la validité des informations que ces deux structures auraient recueillies. Sur plusieurs autres griefs lui portés par la Mouka, notamment l'enrôlement des étrangers, la CENI rappelle qu'au terme de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la Mouka aurait dû se saisir de tous ces prétendus cas d'enrôlement des étrangers et les dénoncer auprès du président du centre d'inscription. Enfin, la CENI rappelle à travers cette mise au point qu'elle est engagée à organiser des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives, apaisées, et cela dans les délais constitutionnels tels que prévus dans le calendrier électoral qui à ces jours est scrupuleusement respecté dans sa mise en exécution.
Clôture hier à Kalemie de la conférence qui a réuni les responsables du parti Ensemble pour la République venus de tous les territoires de la province du Tanganyika. Le haut représentant du président national de ce parti a clôturé ses assises. Christian Mwando a annoncé que c'est une occasion pour le parti Ensemble pour la République de préparer ses cadres aux prochaines échéances électorales. Paul Munanga.
Cette conférence qui a duré 5 jours a connu la présence des fédéraux venus des 6 territoires de la province du Tanganyika. Parmi les points abordés au cours de ces assises, il y a l'évaluation sur l'implantation du parti politique Ensemble pour la République, l'évaluation sur le fonctionnement des fédérations, l'évaluation du processus d'enrôlement et la sélection des candidats aux prochaines élections. Pour les hauts représentants du président national d'Ensemble pour la République, c'est l'heure de se mettre en ordre de bataille pour les élections à venir. Christian Mwando.
Ce que j'attends de cette conférence, c'est que les fédéraux rentrent avec détermination pour aller préparer la base, pour aller préparer les candidats et pour restructurer, réorganiser et mettre en ordre de bataille notre parti politique.
Signalons que peu avant, Christian Mwando a tenu un meeting devant les militants à la permanence du parti d'Ensemble pour la République à Kalemie. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Le corps scientifique du Kasaï oriental est en deuil. La professeure émérite Astrine Seya Wabadinga de la faculté d'agronomie à l'université officielle de Mbujimayi est morte hier à Kinshasa où elle s'est rendue pour les soins. Le portrait de l'illustre disparu avec vous, Alain Irung.
Professeur Astrid Nseya est parmi les premières femmes devenues professeurs en République démocratique du Congo. Décédée à 80 ans, Astrid Nseya Wabadinga était professeure d'université depuis près de 45 ans. Elle fut proclamée docteur en sciences botaniques de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique à 34 ans et depuis lors, elle a évolué au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Elle a dispensé des cours dans les universités de la RDC et celles de l'étranger. De 2009 à 2015, elle a été nommée directrice générale de l'Institut supérieur pédagogique ISP Mbujimayi. Elle a été désignée doyenne de la faculté d'agronomie à l'Université officielle de Mbujimayi, UOM. Elle est aussi la première femme à décrocher l'éméritat dans les provinces du Grand Kasaï, avec un parcours très élogieux. Elle est auteure de plusieurs publications en biologie et en économie. Depuis 2021, l'Université officielle de Mbujimayi a honoré cette femme scientifique en instituant un prix qui porte son nom. Ce prix est décerné à l'étudiante qui aura réalisé le plus grand pourcentage aux épreuves de la première session dans une des promotions de cette institution universitaire.
Actualité internationale.
Au moins 37 personnes ont été tuées lors de l'attaque hier d'une école qui abritait des familles déplacées dans l'état de Benue, dans le centre nord du Nigeria. C'est le deuxième massacre dans cette région cette semaine, ont annoncé ce samedi les autorités locales. Les motifs de ces massacres restent obscurs, mais les autorités locales ont accusé des éleveurs nomades de l'ethnie Fulani qui s'opposent depuis longtemps aux agriculteurs sédentaires de la province de Benue pour l'accès aux terres et aux ressources. 20 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après un naufrage hier vendredi devant les côtes de Tunisie et 17 autres ont été secourus, a indiqué à l'AFP un porte-parole du tribunal de Sfax dans le centre-est du pays. Il s'agit au moins du sixième naufrage depuis début mars, selon un décompte de l'AFP, et ces incidents survenus devant les côtes tunisiennes ont fait au moins une centaine de morts ou disparus.
L'invité.
Notre invité est Boni Ofango, chef de centre d'exploitation de la Sakima Kailo. Il s'exprime sur la santé de cette entreprise minière. Boni Ofango s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Boni Ofango, bonjour.
Bonjour madame.
Nous sommes ici dans le territoire de Kailo où Sakima est en train d'exercer ses activités. Dites-nous comment s'est fait l'exploitation minière dans le territoire de Kailo.
Bon, actuellement, l'exploitation ne se fait pas industriellement, hein. Ça se fait d'une façon artisanale. C'est-à-dire qu'il y a des artisanaux qui creusent et ils vendent leur production au comptoir. Finalement, à l'évacuation, les comptoirs payent la redevance, ce que nous appelons autrement la royalty. C'est comme ça que ça se fait.
Ça se fait artisanalement. Est-ce que ça a des conséquences ou bien c'est toujours bon pour vous?
Bon, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est la diminution de la production d'abord, parce que une mine telle que la mine de la Sakima ne peut pas exploiter artisanalement. Même dans les temps, ça se faisait d'une façon semi-industrielle, mais actuellement, d'une façon artisanale, c'est un peu décevant. C'est parce que nous n'avons pas des investisseurs capables de nous apporter des capitaux frais que nous travaillons avec les indépendants.
Et comme ça s'est fait de façon artisanale, on peut savoir, on peut avoir une idée sur les chiffres, les taux de production pour par exemple une année ou soit un mois, vous produisez comment?
Bon, la moyenne mensuelle c'est 15 tonnes par mois, soit 15 000 kilos. Donc de minerais mixtes. Cela peut aller légèrement à 150 tonnes ou bien 145 tonnes par an. C'est ça la production de minerais mixtes par l'âge et sous-entend la cassiterite et la wolframite.
Et si c'était de manière industrielle, vous pouvez aller au-delà de ça, j'espère.
Bon, si nous nous basons, nous nous référons aux statistiques de la production antérieure, c'est-à-dire quand ça se faisait semi-industriellement, parce que nous n'avons qu'un seul périmètre. On avait 21 tonnes pendant la saison pluvieuse, et pendant la bonne saison, ça atteignait même 30 tonnes par mois.
Actuellement, quel est le grand défi que Sakima éprouve pour mener bien son travail dans la province d'Imali?
D'abord, c'est les courants. Madame, c'est les courants. Parce que c'est depuis 2000 que la centrale hydroélectrique d'Amboué avait été arrêtée. Et curieusement, en juin dernier, nous venons de perdre une paroi du barrage et c'est ce qui nous fait largement regretter. Parce que, dit-on, sans énergie, sans courant, il n'y a pas d'exploitation minière. Donc c'est ça le grand défi. Et aussi l'impayement des salaires, parce que depuis qu'on ne produit plus d'une façon permanente ou industrielle, bon, les travailleurs ne sont plus payés comme il faut.
Et maintenant, à cette occasion où vous êtes devant la radio Capi, quel serait votre plaidoyer aux autorités qui vous entendent dans ce moment?
Bon, moi je pense que tout ce que nous demandons au ministère ou au gouvernement est de nous accorder la chance de trouver des investisseurs. Parce que quand les investisseurs viennent, ils peuvent investir pour le démarrage des activités industrielles. C'est tout ce qu'on sollicite d'abord en priorité. Et parce que lorsqu'il y a exploitation, le problème de la route sera résolu. Le problème d'électrification également sera résolu. C'est ça le grand défi que nous avons à relever.
Et quant au fonctionnement, comme vous avez parlé, les bâtiments et tout, pour Sakima, ça va ici dans les territoires de Kailo?
Oui, moi je pense que sans prétention, nous sommes un secteur exemplaire. Hein. Vous avez vous-même vu les cadres qui viennent de servir à l'autorité provinciale, il est de la Sakima. Bon, contrairement aux autres secteurs, là où si l'autorité venait, il est resté par exemple ailleurs. Mais nous, nous avons essayé de faire de notre mieux pour récupérer certains bâtiments qui étaient en état de délabrement très avancé. Mais actuellement, nous avons quand même des cadres où recevoir les gens. Nous avons également des cadres où travailler.
Et aujourd'hui, on vient de lancer le programme de PDL 145 territoires. Qu'est-ce que ça peut être bénéfique pour Sakima?
Bon, ce qui peut être bénéfique pour nous, madame, c'est d'abord la route. Parce que même les maisons de traitement avec lesquelles nous travaillons, bon, il faut passer des minéraux dans des routes impraticables. Mais comme on vient de parler de ce programme et qu'on va arranger les routes, moi je pense que c'est la plus grande joie que nous venons de recevoir. Et aussi la réhabilitation ou bien la construction d'une centrale hydroélectrique pour nous-mêmes d'abord comme exploitants. Et ensuite pour la population de Kaïl.
Monsieur Boni Ofango, merci à vous.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.